Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Salut, c'est Daryl et tu t'apprêtes à écouter la vraie interview de Bouscapé. Notre format d'interview dans lequel on revient longuement et sans concession sur la carrière d'une personnalité, qu'elle soit producteur, rappeur, acteur ou sportif. Bonne écoute.
On est à Dubaï parce que c'était le seul endroit où, vu la situation par rapport au Covid, où je pouvais continuer à bosser et pas freiner la dynamique dans laquelle j'étais. Je suis en train de bosser sur un projet à moi. Et ici, les restrictions sanitaires sont moindres. Donc du coup, temporairement, je suis venu un peu bosser ici.
Le commencement.
Comment je suis tombé dans la musique ? Je suis tombé dans la musique par mes oncles, en fait. Très tôt, en fait, je les accompagnais dans ce qu'on appelle les conventions, tout ça et tout. C'est un peu la foire du vinyle, tu vois, où t'achètes, tu revends des pièces et tout. Et j'ai parti à un moment donné de la Zulu Nation, tu vois. Donc il était vraiment, vraiment impliqué, tu vois. Et c'était le début du Peura où tout se passait à Châtelet, en vrai, tu vois. Moi, je commençais en tant que DJ. Genre, je venais de m'acheter mes platines, tu vois. Ça faisait... J'avais travaillé tout l'été, tu vois. Et un mec qui est venu, qui a demandé à chacun ce que chacun faisait, en fait, tu vois. Il y en a un qui a dit, voilà, moi, je rappe, machin. J'ai dit, moi, je suis DJ, tu vois. Mais en réalité, j'étais pas vraiment DJ, je venais de commencer, tu vois. Et t'es comme ça, il me dit, bah, tu fais quoi la semaine prochaine et tout? Il faut que je joue au foot. Je dis, bah, j'ai match, tu vois. Et il me dit, bah, viens, on a un concert avec NTM, faut que tu viennes aux platines. Je les ai rencontrés là-bas, Joey Stark, ou Chet. En fait, j'ai fait la première partie d'un pote à eux. Ça s'est super bien passé pour moi. C'était un festival en Belgique qui s'appelait Les Arts du Hip-Hop. Et en fait, sur ce concert-là, il y avait tout le monde. Il y avait Fab, il y avait les deux balles de nez, il y avait tout le monde. Et du coup, j'ai connecté avec Fab, j'ai connecté avec la Secret Connection et j'ai connecté avec celui qui m'a aidé à apprendre, Cutty B. Voilà, qui faisait partie du WH, le crew de Cut Killer et DJ Abdel. Et c'est avec lui que j'ai tout appris. Il avait son studio à Richard Lenoir. Et tout le monde passait, en fait.
Corps et Scalp.
Moi, j'avais fait une mixtape. 100% rap marseillais, 100% mix parisien. Et j'avais fait poser tout le monde. Je crois que c'était une des premières fois où Soprano posait sur un support, par exemple. Et la mixtape, elle avait cartonné. Et à l'époque, tu vois, les mixtapes, c'était... Tu les faisais vraiment tout seul, tu vois. Et tu y allais de mano à mano. J'allais au marché Malik, à Clignancourt, tu vois. Je posais mes mixtapes, J'allais un peu partout, tu vois, vraiment, j'ai appris toute la chaîne comme ça. Et Scalp, lui, il avait une mixtape aussi qui marchait bien. Et du coup, dans les charts, à la Fnac et tout, mais charts un peu ghetto, tu vois, pas un vrai billboard et tout, les deux blasts qui revenaient à chaque fois, c'était Core et Scalp. J'ai vite compris, moi, que la position du producteur, tu vois, du compositeur, en France, tu vois, elle était amoindrie de ouf, en fait. Et je me suis dit, la seule manière, tu vois, d'être incontournable, bah, c'est d'être indispensable. Tu vois, j'ai une culture américaine en termes de son et en termes de vision aussi. Tu vois, et aux US, tu vois, ça a toujours été comme ça. Tu vois, à l'époque, on avait des binômes qui étaient incroyables. T'as vu, t'avais Timbaland et Alia, tu vois, ou t'avais les Neptunes avec Noriega ou même avec Justin Timberlake ou quoi. Il y avait un truc comme ça. Il y avait un modèle pour nous qu'il fallait prendre. Pour moi, c'était le début de... C'était les prémices d'un marketing un peu de producteur, tu vois, qu'il n'y avait pas avant. Et donc, à chaque fois, il fallait dire le blaze et il fallait défrayer la chronique aussi, tu vois.
De la crèche au placard, j'ai trop roulé ma bite. Je te baisse, bâtard, viens nous sucer la bite. Procureur, si j'ai pris, ne prends pas, changer d'avis. Pour m'arrêter, faudra m'enlever la vie.
Et c'est mon top qu'elle se mette à danser sur du hardcore. Elle nous teste encore sur...
Est-ce que vous avez estimé que c'était une force d'être présent sur différents styles et que ça pouvait pas, au contraire, peut-être niquer votre réputation et peut-être déchauffer même des rappeurs qui disent « Ouais, il prod pour Matt Pokora » et en même temps, il peut être amené à être sur mon album à moi.
Moi, pour moi, dans ma logique, c'était justement, tu vois, une manière d'être au même piédestal, tu vois, qu'un rappeur et avoir la même chambre d'écho qu'un rappeur, tu vois, dans ce que t'as envie de dire. Le seul truc, ou si on doit parler de dangerosité, c'est de faire les choses dans ce que tu choisis, dans ce que tu targetes, de le faire sans compromis, de faire le meilleur truc que tu puisses faire. Tu vois, quand je faisais un Magic, quand on faisait un Magic System, c'était un hit. Quand c'était un morceau pour un rappeur, ça devait être le morceau le plus glacial. C'était le morceau le plus glacial. Mais la proposition respective pour chaque artiste, elle était cohérente dans son domaine. Donc dans chaque domaine, on a donné le meilleur.
Démarrage au top, de la première à la sixième, je vais mettre ça au top. Plus rien peut m'arrêter, ni rappeur, ni Robocop. N'aie pas peur, quand je pilote le mic, rien que je passe des rapports.
Tu me rappelles, tu vois, il y a Rof qui avait dit dans une interview, il avait dit dans un morceau, il avait dit ouais, que serait Corescal sans TDSI, tu vois. Nous, on était les premiers, tu vois, être en capacité, tu vois, d'appeler le mec et lui dire, poto, que serait Rof sans TDSI, parce que c'était ton premier hit. Et personne parlait comme ça. Là, il faut qu'on redéfinisse les cartes, en fait. Les producteurs, ils sont pas sourds et muets, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, ils sont là, tu sais, ils peuvent parler, dire des choses, échanger, et aider même, et changer un peu des mentalités par rapport à ça. Et ça a toujours été très, très tôt, tu sais, j'avais 21 ans, 22 ans, tu vois. Très, très tôt, ça a été une de mes logiques, tu vois.
En 2003, toujours, tu ouvres un gros chapitre de ta vie, sans t'en rendre compte, c'est les bandes originales. Ouais, tu vas être amené à produire celle de Taxi 3.
Ouais.
Toi, comment t'es amené à produire ça?
Le travail d'un éditeur, c'est quoi? C'est de placer tes prods. De t'aider à placer tes prods. Moi, quand je signe avec eux, encore une fois, c'est toujours de savoir pourquoi tu fais les choses. Pour jamais être dégoûté après, tu vois. Sony me dit, voilà, on va placer tes prods, rap français, machin, tout. J'ai rap français, je connais tout le monde. On n'a pas besoin de vous par rapport à ça. Ça, on a déjà ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des musiques de film. Sony, en fait, a envoyé un showreel, tu vois, des démos d'instru, Europacorp. Et la chance qu'on a eue, en fait, c'est que Luc Besson demandait à son assistant de barrer les noms pour pas être influencé par un tel ou un tel ou un tel. On est venu nous chercher par rapport à ça. Et moi, je me suis dit, on a un terrain de jeu incroyable. Parce qu'en fait, on a la possibilité, à travers ce projet, d'expliquer définitivement qui on est et notre spectre. C'est-à-dire, sur le papier, c'était balèze. Il y avait DJ Mehdi, Personnam, il y avait Neptune, il y avait nous. C'était big.
En 2004, si je dis pas de bêtises, vous lancez le projet R&B Fever.
Ouais.
113, c'est lui et moi, et ce son, c'est fait pour vous.
Une compilation qui a beaucoup marqué son temps.
Ouais.
Comment vous avez venu l'idée?
C'était notre culture, en fait. Moi, je suis d'origine algérienne. L'idée, elle est venue d'un truc tout con, où, dans ce besoin d'appartenance, tu vois, et de fierté. Le rail, à cette époque-là, il est un peu mis aux oubliettes. C'est un peu le truc que t'écoutes chez Watt en loose day, tu vois. Et je me suis dit, non, il faut qu'on mélange tout ça. On a vraiment bossé le truc ensemble. Tu vois, artistiquement, mais après, sur l'aspect, le meilleur combo, le meilleur truc, tu vois, je savais, tu vois, en termes de vision, tu vois, ce qu'il fallait amener.
Et en 2005, grosse surprise, tu te sépares de Scalp.
Ouais.
Pour divergence artistique. Ouais. Alors, comment un duo aussi efficace comme le vôtre a pu se séparer à ce moment-là?
Mais je vais te le dire simplement, en fait, c'est que quand t'as un binôme à succès comme ça, je pense que c'est l'entourage respectif de chacun qui pense que c'est toi qui fais tout. T'as pas les épaules et le mental pour tout le temps te rappeler qu'en fait c'est toi et moi et que c'est pas toi et moi et machin et un autre qui va décider. Bah à un moment donné, t'as vu, tu laisses les gens rentrer, tu vois, tu laisses les gens parler et puis à un moment donné le truc, tu vois, il part plus comme il devrait partir. Et c'est ça qui s'est passé. Moi je le reconnais, tu vois, avec du recul, tu vois, je me dis ce qu'on a fait, c'était trop. Normalement, du Corescal, t'as allumé la radio, t'as l'impression que Skyrock, c'était... Skyrock, même ou Énergie, tu sais que c'était un odaron, tu vois ce que je veux dire. C'était incroyable, dans tous les styles. Mais cette vista-là et cette vision-là, c'est moi qui l'avais. À un moment donné, moi, je savais que, voilà, on n'était plus d'accord sur beaucoup de choses. Mais je savais que c'était beaucoup le fruit de... Regarde, putain, qu'est-ce que tu fais avec lui, tu vois. Et on a tous le même entourage. Moi-même, j'avais le même entourage. Je suis pas en train de te mitonner un truc ou... C'est de son côté ou quoi? On avait tous le même entourage. T'as vu, t'as une IFA, t'as des gens, t'as des trucs, mais regarde, pourquoi toi t'es là, regarde, et lui, il est toujours là, tac, machin, tu vois. Je pense qu'à l'époque, moi, j'ai su garder la tête froide, mais pas lui. Et encore une fois, si j'en parle avec autant d'assurance aujourd'hui, c'est que 20 ans après, j'ai prouvé. Tu vois, c'était pas un accident. C'était pas un truc de... Je suis pas là par hasard. Et après, quand il y a eu la séparation, j'ai eu une vraie traversée du désert, tu vois, pendant un moment. Et elle m'a été bénéfique. Tu vois, cette traversée du désert. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que dans ce truc-là, tu vois, c'est une culture vraiment française. On aime bien, tu sais, aller vers le mec, tu vois, qui est cool, tu sais, qui parle pas trop, tu vois, plus que vers celui qui est pas, non, pas la grande gueule, parce que j'ai jamais été une grande gueule, tu le vois aujourd'hui même, tu vois, je suis pas là, là, c'est rare que même je fasse des interviews, tu vois. Mais du coup, naturellement, lui, il a polarisé, tu vois, toutes les bonnes énergies et le bon truc, tu vois, de son côté. Et moi, tout de suite, fallait m'éteindre. Il y a ce groupe qu'on produit qui s'appelle Les 11. Et ils disent cette phrase magnifique, tu vois, ils disent « Cher connaître l'orgueil et l'ego dans trop de modestie. » Cette phrase, elle veut tout dire. Je retiens que le bon. Tu vois, je suis pas quelqu'un de spécialement rancunier, tu vois. Mais je pense que lui, particulièrement, pour le mal que ça m'a fait après, dans ma vie, tu vois, dans mes proches, dans ma famille et tout, c'est une personne à qui je parlerai plus jamais de la vie, en fait. À vie, je ne lui parlerai plus. Tu vois? Pour dire les choses sincèrement. Parce que je sais le mal que ça m'a fait, tu vois, pendant beaucoup d'années. Donc voilà, je pense que j'ai été plus que clair sur complet sur cet épisode Corescal.
Il y a juste un truc, c'est comment ça se passe au niveau d'Artop?
Comment ça se passe au niveau d'Artop? J'aime bien ta question, et vas-y, on va aller en HD, il n'y a pas de problème. Il n'a jamais été dans Artop. C'est-à-dire qu'au départ, moi je le connais lui et je connais sa famille, tu vois. Et je me rappelle qu'on avait des projets de statut où on était à 50-50. Tu vois, sur le papier. Il y avait mon petit frère avec moi et il y avait son frère avec lui. Et je sais pas, je pense qu'il y en a un ou deux qui a plus cru à l'histoire que l'autre, en l'occurrence moi. Parce qu'il m'a dit à la dernière minute, voilà, moi, t'as vu, j'ai pas trop envie de... On n'a pas trop envie de rentrer dans une association, un truc. Je lui dis, écoute, il n'y a aucun problème. Je lui dis, mais comprends que moi, je vais y aller. Et je vais le faire parce que j'ai une vision et j'y crois. Je crois en ce que je fais et je sais qu'on va y aller. Corescalp, c'est dissocié de ce truc. Les gens voyaient Artop, tu vois, comme un truc qui nous appartenait à deux. Mais ça m'a toujours appartenu, ça a toujours été à moi.
Et comment tu passes de ton duo avec lui à ta nouvelle collaboration avec DJ Belek et Aurélien Mazin?
Le truc avec mon frère, c'est que mon frère, il a baigné dans le son très très tôt. Tu vois, il n'y a aucune comparaison entre Corescalp ou le Coré Belek, tu vois, de l'époque. Ça n'a rien à voir. C'était juste un truc logique que de toute façon, à un moment donné, on serait amené à collaborer ensemble. Parce que mon petit frère, depuis l'âge de 12 ans, il était avec moi. Depuis tout petit, il est très, très talentueux. On est d'accord qu'aujourd'hui, je suis très content et très fier pour lui et de ce qu'il est en train de faire, tu vois, avec ZKR, avec Landy, avec tous ces trucs-là. Et c'est... Ça lui appartient à lui. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est sa réussite, c'est son truc. C'est un truc qui s'est construit, tu vois, qu'il a construit lui tout seul, tu vois. Nous, quoi qu'il arrive, on est frères. Donc, il ne peut pas y avoir de comparaison par rapport à Corescalp, parce que déjà, à la base, on est frères. Et que dans ce côté, quand je dis frère, c'est qu'à la rigueur, on pourrait et on a été une parenthèse dans la carrière respective de chacun, mon frère et moi. Mais c'est mon frère. Donc, tu as vu le son... Limite, on s'en fout, en fait, tu vois. Et après, Aurel, pas de duo, tu vois. C'est pas une histoire de duo corps Aurélien Mazin. Aurel, c'est la MIF, tu vois. Il y a Nasser aussi, tu vois. Et on bosse ensemble.
Le rêve américain.
Moi, l'idée, en fait, du R&B, quand je fais le concert, on prend Bercy. Bercy sold out avec un plateau artiste, je crois, peut-être de 40 personnes. C'est pas pour l'oseille que tu le fais. Tu le fais pour que la chambre d'école soit plus balèze et que tu te dises que, tu vois, tout le monde va en parler. Et parce que c'est la France, parce que la France, c'est comme ça, passer l'adrénaline du samedi soir, tu t'aperçois que personne ne relaie. Il n'y a rien qui se passe. Le dimanche, il n'y a rien qui se passe. Le lundi, il n'y a rien qui se passe. Personne n'en parle. Et franchement, j'ai fait un rejet après, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, en fait, ici, c'est trop. Ici, c'est que les faits divers, quand il y a des embrouilles. Tu vois, c'est que, comme à l'époque, c'est que le voile, c'est que machin, c'est que des trucs où on veut nous ramener, tu vois, à un niveau qui n'a pas lieu d'être. Le mardi, je suis parti au steak. Le samedi, concert. Le mardi, j'étais parti.
Parti tout seul ?
Je suis parti avec mon petit frère, avec Aurel. Mais dans ma tête, j'étais seul. Je pouvais demander à Sony en France, tu vois. J'ai dit, tiens, pluguez-moi avec un tel, tout, pluguez-moi, machin et tout. J'ai voulu demander de faveur à personne. Je voulais partir tout seul, tu vois, et starter mon truc. Et voir ce que ça allait donner. Et puis, t'es là, tu sais, t'y vas en vrai, tu vois. Donc, t'es là, tu dépenses de l'oseille, tu t'es là, tu dis, putain, merde. Pas que je revienne en loser de ouf, tu vois. Faut que j'y arrive. Et je retourne à l'hôtel et tout, machin. Et je regarde des vidéos de Rick Ross et tout. À un moment donné, je vois une vidéo où il est chez son joaillier. Le joaillier, il était downtown, au Seabold Building. Ça vend, tu vois, des blings, des trucs, des machins. Tout. Je me suis dit, je suis sur place, tu vois, j'ai rien à perdre. J'étais là-bas. Je suis rentré direct, j'ai acheté une montre, une belle montre. Donc du coup, j'étais un bon client. Après, j'expliquais au mec, tu vois, je suis tombé sur le père du gars que j'avais vu dans la vidéo. Vous avez fait un super choix et tout. Je dis, écoute, franchement, la montre, c'est pas. Merci, mais. Je dis, c'est bon, ça y est, maintenant on peut se parler, tu vois. Je dis, voilà, moi je fais de la musique et tout. Et j'ai vu que votre fils connaissait Rick Ross, machin et tout, j'ai envie de. Et là, il se tape une barre directe et il me dit, putain, depuis que mon fils a mis cette vidéo, tout le monde croit que c'est un studio ici. Et moi, ça m'a réconforté dans mon idée, tu vois. Je me dis, putain, je suis pas ouf. Il y en a d'autres qui sont arrivés, machin et tout. Et là, je lui explique, tu vois, mec, je dis, voilà, mais moi je viens de loin. Et chez moi, t'as vu, je suis quelqu'un, j'ai bossé, j'ai fait des trucs et tout. Donc celui qui m'aidera là, au pays de l'oseille, parce que les States, c'est ça, tu vois, eh ben, on sera ensemble. Et ils m'ont aidé. Et 3 jours après, j'étais chez Rick Ross, dans sa maison, chez lui.
Tu penses qu'il t'a apporté quoi ces jours aux States, maintenant, avec du recul ?
De l'assurance. D'arriver dans un terrain nouveau, qui est pour moi le vrai terrain. Sans être jugé. Parce que les carrés, ce qu'ils regardent, c'est les résultats. Tu peux monter et descendre. Et les résultats, quand ils se renseignaient sur, en France, c'est un mytho, lui, ou c'est pas un mytho, tu vois. Ils voient que c'était pour de vrai.
Et c'est à partir de quand que Def Jam va faire appel à toi?
À partir de quand? Au moment où il y a Sylvanis qui m'appelle. Et en vrai, c'est un sentiment de ouf avec du recul, tu vois, quand les gens pensent que t'es mort, que t'es cuit. C'est trop bien. C'est trop bien parce que t'as pas de pression, t'es sous des radars, tu vois. Et je pense que le mot amnésique, tu vois, dans notre métier, dans n'importe quel métier, tu vois, c'est péjoratif et tout. Nous, dans notre métier, ça tue l'amnésie. C'est trop bien si tu sais l'utiliser. Parce que c'est quoi l'amnésie en vrai? C'est t'as sorti un morceau claqué, t'es mort. T'arrives 2 minutes après avec un morceau qui tue, t'es jamais parti. Donc voilà, donc quand je reviens, personne ne sait, tu vois, le juice que j'ai. À part 2-3 mecs que je croise, tu vois, des esprits noirs et tout, et qui se bossent un peu, qui captent que là, il se passe un truc, tu vois, musicalement, que ils savent même pas que les 2 piges, tu vois, de la formation du Jedi, quand je reviens, c'est trop. Je le sais, moi, dans ma tête, tu vois. Je suis confiant à mort, tu vois, je me dis, ouais, je sais. Je sais ce que j'ai dans les mains. Mais tranquille, tu vois. Laissons-les encore sur des vieilles histoires de trucs balourds, tu vois, de machin et tout, tranquille. Ils verront d'eux-mêmes, de toute façon, dans le travail.
La crime.
Et là, tu vas être amené à travailler, entre autres, avec la crime et SCH.
Ouais.
On va commencer par la crime.
Ouais.
C'est quoi tes premières impressions, la première fois que tu entends un morceau de la crime?
J'avais déjà bossé avec lui sur R&B, à l'époque. Et moi, je le voyais, Karim, je le voyais comme un petit hustler qui rappe, tu vois. C'est marrant, j'en parlais avec un pote il n'y a pas longtemps, dans Né pour mourir. Ce qui fait qu'on va bosser ensemble se joue pour de vrai. Hein. Ça se joue à 8 mesures. Et en fait, il utilise l'autotune. Et la manière dont l'autotune réagit, tu vois, avec sa voix, donne un truc où je me dis, lui, je peux faire un truc nouveau. Il a la crédibilité pour. Il est. C'est un diamant brut. Il y a juste à y aller. Et c'était parti. Je savais que Corleone, ça allait tout éteindre. C'était trop. Tant sur le son, sur l'image, sur les clips, sur la manière dont les Karim nous ont respectés, de par les relations que moi j'avais avec eux. Le clip avec Lil Durk, c'est quelque chose. Celui avec French, pareil. Il y en avait un truc de respect parce que c'était tout mon network que j'avais là-bas, que j'ai mis à profit sur Corleone parce que je savais que ça nous serait bénéfique à tous les deux, tu vois, et que Karim avait le charisme pour supporter ça. Et ça n'a pas loupé.
Donc, dès que vous sortez comme premier single, mon Glock te mettra à genoux, ouais. Tu savais que ça allait tout être dans le
monde. Ouais. Ouais.
T'as pris des bêtes, tu veux me faire la guerre, mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Deux, trois promenades et tu me croyais mort. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux.
Mais même pas par rapport à celui-là. Moi, je savais que c'était parti par rapport à l'intro de Corleone. Et que quand on sortirait l'intro de Corleone, et tu pourras lui demander à Karim, parce que j'avais eu cette discussion-là aussi avec SCH sur un autre morceau, sur Je la connais, ou sur Corleone, et je lui dis, gros, tu sais, on va se faire déchirer. Je lui dis direct, pendant 2-3 semaines, on va se faire déchirer. Mais poteau, passer ça, tu vas voir comment les gens ils vont se le rocker, le morceau. Tu vas voir comment dans leur tête, c'est juste les habitués. Ça n'a pas loupé. L'intro de Corleone, poteau, il faisait le micro. 5000 personnes, 2000 personnes, 500 personnes, 20 personnes, ce que tu veux. C'était cuit. Moi, si on doit parler de binôme, c'est ça, un vrai binôme. C'est l'alliance, tu vois, producteur, c'est compositeur, rappeur. Je te planais tous mes titres quasiment, tu vois. Mais pareil, parce que c'était très tôt, c'était pas un gamin, Karim. Très tôt, il y avait un truc de hustler. Donc lui, t'as vu dans sa tête, il n'allait pas rentrer dans ce débat de fond bout, tu vois, de ouais, la top line où je prends pas, où je prends. Lui, il était en mode, vas-y, faut tout arracher. J'ai vu après des débats là-dessus, tu vois. Mais en vérité, nous, on était les premiers à le faire quasiment.
Donc, il n'a jamais douté de ta proposition artistique. Par exemple, jamais. Quand tu lui fais écouter une prod comme Barbade, il est chaud direct.
Direct. Mais direct. C'est de la musique, c'est une proposition. Et on savait, quand on voyait les teutés, des moments presque des larmes, tu vois, de joie, de dire putain, mais. Et on sait ce qu'on est en train de faire. C'est charmant de se dire ça, tu vois.
Allez, viens, je t'emmène. Les pieds sur le sable, au bord de l'eau. Mais j'oublie pas mes problèmes.
C'est là que tu crées le label Awa.
En fait, Awa, au départ, ça part des États-Unis. Moi-même qui étais dans les stéréotypes de, tu sais, l'estate, un rebeu, tu vois, musulman, machin, tout, tu vois. T'es un peu dans le flip, tu vois. Les mecs, ils étaient là en mode, tu vois, on est là. Tu vois, on est dans le truc. Et moi, du coup, le haraboud d'attitude, c'est devenu sois fier de ce que tu fais, tu vois. Et c'était pas du tout un truc sectaire. Tu connais la France, encore une fois, tellement c'est fucked up, tu vois, entre les gens, comment ils pensent dans leur tête, tu vois, de... Ouais, ça, c'est un truc, c'est pour les Renois, ça, c'est pour les Rebeux, ça. De par mon âge et de par la ville d'où je viens, Montreuil, on n'a jamais été là-dedans. Et que c'est même pas en référence à NWA, tu vois, c'est autre chose. Dans quel sens je te dis c'est pas une référence? Dans le sens où historiquement là-bas, la souffrance que les gens ont eue là-bas, tu vois, c'est pas la même. Tu vois, quand il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide. Tu vois, l'estate, c'est encore une autre violence. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore un autre truc. Nous, on est dans un truc un peu hypocrite, tu vois, en souffrant.
Pour la crime, après, vous enchaînez avec Ripro volume 1.
Ouais.
Et c'est un projet que vous faites en cavale.
Ouais.
Parce que la crime, il est jugé, il est condamné à 3 années de prison, il ne se présente pas à son procès et il part en cavale entre l'Espagne, l'Algérie et le Maroc.
Ouais.
Toi, comment tu vis ça?
Je rajoute pas plus de théâtralité, tu vois, à l'histoire. T'as peut-être des potes avec toi qui sont plus dans un truc d'adrénaline et qui trouvent ça gaulerie et kiffant, tu vois. Sauf que c'est pas marrant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'es en galère, tu vois pas tes enfants, tu vois pas ta famille. Ça coûte des sous, une cavale, tu vois.
Tes enfants, ils avaient conscience de la situation?
Ben, l'aîné, il est encore jeune. Il est encore petit. Pas trop, tu vois. Mais ça a été des sacrifices, ouais, pour moi aussi. Parce qu'il fallait bouger. Tu vois, fallait que j'aille au Maroc, fallait que j'aille en Espagne, c'était une autre manière de bosser, tu vois. Mais encore une fois, dans la créativité, cette forme d'urgence, t'as l'impression qu'avec Karim, tu vois, il y a que comme ça, tu vois, que l'accident, dans le bon sens du terme, tu vois, se crée, tu vois, artistiquement, et tu te dis, putain, il se passe un truc de ouf, tu vois.
Et justement, ce projet, il représente plein de choses, il a eu un gros succès, il y a des feats incroyables, il y a une conception hors du commun. Et il y a l'avènement d'un jeune rookie à l'époque, c'est SCH.
SCH, ouais.
Comment vous découvrez SCH? Et comment il est amené à figurer dans le projet?
SCH.
C'est la crime. Moi, au départ, j'ai rien à voir, en fait, avec ça. Et j'écoute. Je prends une tarte directe. Je sais pas, c'est comme dans... C'est quoi, ce film-là, Incassable. Tu vois, où Bruce Willis, quand il serre la main du mec, il voit tout le film. Je serrais la main du gars, j'ai vu Champs-Élysées, j'ai vu Arsène, j'ai vu... Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai tout vu. Il y a des trucs comme ça où tu peux pas lutter, tu vois, c'est écrit, un truc puissant.
Donc toi, tu vas produire Asset, du coup, son premier ouais. projet. Et tu vas faire un choix intéressant, c'est que tu vas décider de partager, en fait, ton rôle de producteur. Tu vas pas produire tout le projet et tu vas le scinder en deux. Une partie produite par Katrina Squad et l'autre partie par toi et ton équipe.
C'est pas passé comme ça.
Ok, c'est passé comment ?
Ça s'est pas du tout passé comme ça. Là où je vois la force d'SCH, c'est sur des maquettes qu'il a commencé avec Katrina Squad. Je sais même pas qui est Katrina Squad. Moi, au départ, il y a un mec qui s'appelle Mourad qui produit SCH et qui choisit un réalisateur pour réaliser tout le projet. En l'occurrence, moi. Je ne suis pas producteur d'SCH, même si j'emmène la signature d'SCH chez Def Jam à l'époque. Je suis pas producteur du mec. Donc moi, je suis là en tant que réal et libre à moi d'accepter ou pas. Et j'ai accepté de réaliser tout le projet. Et dans cette réal, il y avait des titres qui n'étaient pas produits comme ils étaient au final de Katrina Squad. Et je tiens vraiment, tu vois, à remettre le truc là-dessus, parce que pendant un moment donné, tu vois, il y a eu des petites zones d'ombre, tu vois, des petites zones de tension sur des trucs, en fait, un peu lâches, tu vois. Un peu lâches d'un mec comme Genono, par exemple, qui avait fait tout un article où il m'avait descendu, prétextant soi-disant une relation entre moi et Def Jam de je sais pas quoi, tu vois, que c'était faux. Moi, j'étais juste en train de bosser, j'avais rien avec... Je bossais pour moi, je faisais mes projets, je bossais avec mes équipes, tu vois. Et ce que j'ai pas aimé, en fait, là-dedans, c'est qu'encore une fois, parce que j'étais le plus exposé, et qu'en fait, on m'avait choisi en tant que réal, j'ai juste fait mon travail, moi, en fait. Et que les prendre en question, que ce soit Katrina Squad, ou, j'aurais pu te dire Double X, ou qui tu veux, il y a un réal, et il y avait, au départ, des maquettes de morceaux, où j'aurais aimé même, tu vois, faire un jour, tu vois, faire un rouvrir les sessions de l'époque, de ce que j'avais reçu et de ce qu'on en a fait. Moi, Aurel, mon équipe et comment on a bossé le truc. Et du coup, c'est parti dans un truc comme ça parce que... Pourquoi je te parle de truc lâche ? Parce que à l'époque, tu sais, c'est passé, je m'en fous, tu vois. J'en parlais pas et tout, tu vois, mais... Si tu parles de quelqu'un, toi qui es un média ou... La moindre des choses, tu vois, c'est d'aller voir l'intéressé. Moi, je suis bon joueur. T'as des ondes d'ombre, t'as un truc que tu comprends pas, y a pas de problème, je suis bon joueur. Mais tu tires pas dans le dos comme ça, sans même consulter l'intéressé, sans même parler avec lui. C'est pas tu fais un article comme ça et parce que tu t'auto-proclames, tu vois, comme faisant partie des bien-pensants de ce game, tu vois. Prenant la défense de projets qui marchent up, en prétextant que qualitativement ils sont mieux, mais ils marchent up, alors que la plupart des morceaux des projets qui marchent up, c'est parce qu'ils sont claqués. Tu vois ce que je veux dire? Et donc t'arrives et tu me mets moi dans une posture, encore une fois, de mec où, on est venu spolier les prods d'un mec ou d'un mec. Mais à aucun moment t'es venu me parler. Je m'adresse à celui-là, là, Genono, tu vois. T'es pas un journaliste. T'es une merde, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? T'es une grosse merde. Parce que si t'as un truc à dire, tu le dis à la personne d'abord. Et moi, à preuve du contraire, les gens avec qui tu travailles me connaissent. Tu cherches des réponses à des questions que t'as? Appelle-moi. On se voit. Mais c'est pas je découvre le truc sur Twitter comme ça, tu vois. D'un truc en plus, les masterpieces qu'on a lâchés sur Asset, comment on s'est tué sur ce projet pour arriver. De toute façon, cherche pas. C'est le projet le plus vendu. C'est le classique. Coup sur coup, Corleone, Asset, quoi, un an d'intervalle. C'était incroyable. Et tu vois, quelque part, ce genre de sortie, tu vois, mal avisé, te font pas apprécier la juste valeur de ce que t'as fait et du succès que ça a pu avoir à l'époque. C'est pour ça que des fois, tu vois, c'est des trucs où je me dis, c'est pas cool. Tu veux faire le Mediapart, fais-le jusqu'au bout. Tu veux faire le Edwin Plenel, fais-le jusqu'au bout. Prends pas qu'un son de cloche. Viens voir les mecs. Viens voir l'intéressé que t'as descendu dans une interview. Moi, personne m'a parlé. Voilà, pour répondre à ta question.
Tu l'as dit, avec Corleone et Asset, t'as fait un enchaînement à l'espace d'un an incroyable. C'est leur premier projet marketé en majeur pour les deux. Et ils sont sans cesse comparés avec leur nouveau projet. Est-ce que toi, t'as l'impression qu'ils n'ont jamais été aussi forts qu'à ce moment-là pour eux?
Ouais. Asset, c'était quelque chose. Corleone, c'était quelque chose. Même le morceau Liquide des deux ensemble. C'était incroyable. J'avais adoré la réaction, moi, de Lacrim. Enfin, on se parle vrai, tu vois. La réaction de Lacrim de... Il voit le dégât que ça fait, tu vois, Asset, tu vois, le truc et tout. Et le mec, il vient et... Mais mec, il rappelle à tout le monde qui, t'as capté? Vraiment.
J'avais du bifon à la rue derrière du liquide. Si je te fais mon équipe, ton équipe, tu connais pas ma vie, mon équipe. Des appâts, des vilains, des plaques diplomatiques, des semi-automatiques. Depuis ton talon, te niquer ta mère, fiston, c'est la thématique.
Incroyable ce son couplet. Je l'aurais écouté il y a pas longtemps. Je l'ai appelé le jour, j'ai dit, mais mec, c'est... Qu'est-ce que t'avais ce jour-là, tu vois? Parce qu'en plus... Parce qu'on me prête beaucoup de choses, tu vois, par rapport à la crime. De... Ouais, t'as vu, c'est lourd, c'est machin, parce que corps, parce que machin. Il était tout seul. Tout seul. Il n'y avait personne avec lui, ni moi, ni personne. Tu vois, il n'y avait personne.
Séparation.
Donc, vous sortez Ripro 2 et vous mettez fin à votre collaboration. Donc, ouais. Une nouvelle fois, tu te sépares d'un acolyte avec lequel tu sillonnais les cieux. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Il se passe que... On n'est plus sur la même longueur d'onde. Le Lacrim que moi j'ai connu, tu vois, devient une star qui où ça dépasse tout le monde. Et puis moi, j'étais quand même dans un truc, tu vois, aussi, ça je le prends pour moi, tu vois, avec du recul, d'un truc où tu veux toujours tout contrôler, tu vois. Parce que t'es habitué à bosser comme ça, tu sais, à vouloir... Non, là, on va faire ça comme ça, là, on va faire ça comme ça. Et je pense qu'en fait, à vouloir tout contrôler, tu contrôles rien. Tu contrôles plus rien, en fait. On s'est séparés parce que, voilà, pas le même, encore une fois, pas le même entourage, tu vois. Puis le jeu des maisons de 10, tu vois. Benjamin Chelvanis qui joue sa partie. Regardez comme il la joue. On avait une proposition de départ. Carrément, c'était fait, tu vois. Et Chelvanis arrive au milieu, tu vois, à un moment donné, entre la cavale, entre la sortie et tout, tu vois, qui fait que finalement, celui qui a été le plus intègre dans l'histoire entre nous trois, c'est Chelvanis. Il n'a pas changé, lui. Tu vois, lui, ça fait 20 ans qu'il vient, c'est... Salut, j'essaye. Ça passe. T'as capté? Il est resté intègre et égal à lui-même dans sa proposition de business de venir et de faire ce qu'il a à faire. Mais encore une fois, c'est aux autres de garder la tête froide. Et nous, on n'a pas su le faire. C'est tout. Mais avec du recul, c'est pas plus grave, tu vois. Il y a des choses à vivre après, tu vois. Il y a une vie, tu vois. Peut-être que si je m'étais enfermé que dans ce truc par rapport à Karim, j'aurais pas fait Awa. Tu vois? J'aurais pas fait d'autres choses, j'aurais pas évolué, je serais pas parti un peu à un moment donné dans l'électro avec Brodinski, avec tous mes potes, tu vois, à découvrir une autre manière de produire, une autre manière de bosser, une autre manière de faire, tu vois. À tourner un peu en tant que DJ, un peu à droite, à gauche. C'est un truc que j'avais perdu aussi, tu vois. Juste le kiff. Je me retrouvais avec Brodinski sur des line-up, tu vois, à mixer à Los Angeles avec Guillaume Berg et Virgil Abloh. C'est des trucs que les gens savent pas. Mais c'est réel, tu vois. C'est arrivé. Et voir le début de ce que je voyais aux États-Unis, de ce qui allait arriver en France, avec justement cette espèce de wave. Tu vois, sur un line-up, tu vois, d'artistes, tu pouvais avoir Ketranada, XXX, tu vois, je veux dire, Brody, Travis, et plein de mecs de l'électro. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça, en fait. C'est ça qui va se passer, là. Et encore une fois, la chance, je me demande même pas comment, tu vois, c'est... Des poteaux en commun, tu vois, mon cousin qui connaît un mec, qui me parle de « tiens, il y a Zola, machin », je regarde ce petit, je me dis « putain, c'est un truc d'ouf ».
La nouvelle génération.
Tu vois? Et double challenge, parce que Zola, il sait même pas qui je suis. Et c'est mortel. Parce que ça veut dire que je le prends pas pour mon ego, tu vois. Je me dis, putain, c'est cool. Je vais me renouveler, en fait, dans un autre flow, dans un autre truc.
Et il t'incite à te renouveler.
Mais de fou.
Parce qu'il n'hésite pas à être cash avec toi.
Quoi? Je lui fais écouter au début, je lui fais écouter 50 prods. Mais les 50, il les a achetés par la fenêtre. Jusqu'à un moment donné où je me dis, je peux être le problème de ce projet. Et donc, j'ai le recul, parce que j'ai aussi ma position de label, tu vois. J'ai le recul pour me dire, vas-y, viens, on se barre à Miami. J'ai un pote à moi là-bas, qui s'appelle Jimmy Duval, qui a produit Look At Me, DXXX. Je me dis que dans l'antre de la wave, tu peux pas faire mieux, tu vois. Pareil, carrément, à la fin, mon pote Jimmy Duval, il est genre mort de rire. Mort de rire tellement il lui a tout têche. Des trucs que t'as entendu après sur Lil Pump, sur des Post Malone, sur des trucs où... Et c'est là où la vraie relation, elle est née, entre Zola et moi, artistiquement, tu vois.
Et toi, justement, comment t'expliques que t'arrives tout le temps à rester à la page, musicalement parlant?
Parce qu'écouter du son, c'est pas une galère pour moi. Et puis, je pense pas qu'il y ait une histoire d'âge de... Tu vois, sans me comparer, hein, toute proportion gardée, mais je crois que Off The Wall de Michael Jackson, Quincy Jones, il a 54 ans. Il n'y a pas d'âge, tu vois. Il n'y a pas d'âge, c'est juste de la zik. C'est... Au contraire, il faut kiffer, tu vois.
Est-ce que les compilations slash les bandes originales, ça t'apporte pas un peu un vent de fraîcheur? Le fait d'être avec plein d'artistes différents en studio, d'entendre plein de nouvelles choses, en fait, est-ce que ça t'influence pas, toi, dans ta proposition artistique pour tes projets à toi?
Ouais, de ouf, complètement. Ça m'influence de ouf. En passant pécho, par exemple, tu vois, où... Je suis avec mon équipe, je suis avec Corel, je suis avec Nasser. Et c'est là où je me dis, pour encore plus, tu vois, séparer ça, toujours dans ce que je t'expliquais, de ne pas mélanger le process de son et de Nesby ou machin, j'ai eu l'idée de prendre Sadek en producteur exécutif de la BO. Et lui dire, mec, vas-y, tiens un budget, tiens un truc, vas-y, fais. Moi, je suis en studio et dans ma tête, j'ai 16 piges. Et je fais du son. Je fais rien d'autre que du son avec les mecs.
Retrouvailles avec Lacrime.
C'est une BO dans laquelle on retrouve Lacrime.
Ouais.
Donc ça signe vos fameuses retrouvailles.
Ouais.
Comment vous êtes amené à retravailler ensemble?
Comment on est amené à retravailler ensemble? Je reçois un texto. Il m'avait fait gauler ce texto. Nous Mardinho, qui est le manager de Karim. Et qui me met. Eh frérot, c'est l'heure de la paix. Et en fait, il m'envoie une toffe de Karim qui me sourit à moi. Et je le connais. Et là, je tape une barre de rire, tu vois. Et je me dis, ah ouais, bon, OK, j'ai capté le truc, tu vois. Et du coup, je l'ai pris à la cool. J'avais rien à lui reprocher. En vrai, j'avais quelques trucs, comme lui, tu vois. Mais par rapport, encore une fois, à ce que les gens ont pu fantasmer, tu sais. Tu sais, les vrais embrouilles dans la musique, c'est... À un moment donné, c'est l'oseille, par exemple. Tu vois, il n'y a jamais eu ça entre nous. Il n'y a jamais eu de truc bizarre, tu vois, par rapport à ça. Et puis, je pense qu'on a, lui comme moi, on a tenu une ligne de conduite, tu vois, quand même assez socle-là. On n'a jamais tiré sur l'autre, tu vois, publiquement, pendant qu'on était en embrouille, ou même en scred, en vérité, chacun vivait son truc, tu vois. Ça peut que bien venir, s'il n'y a pas de réel problème à la base. Il y a un peu d'ego, un peu de truc, tu vois, comme moi, j'en ai. Les problèmes ne peuvent pas non plus tout le temps venir des autres. Tu dois te remettre en question. Moi, je suis pas blanc bleu, t'as vu, j'ai mes coups de sang, j'ai mes trucs, j'ai mes, tu vois. Bien sûr.
Est-ce qu'on pourrait vous revoir travailler ensemble sur tout un projet?
Ouais. Tout un projet, ouais, je pense qu'on peut... On a commencé déjà 2-3 trucs qui m'ont... Des trucs vraiment bien.
Tu penses qu'aujourd'hui, vous pouvez faire aussi bien que Corleone?
Faut même pas y penser à ça. On peut peut-être refaire un truc parce que... Redécouvrir des choses ensemble. Mais pas avoir cette chape de plomb de Corleone ou quoi, parce que... Parce qu'on pourra jamais faire mieux que Corleone. En fait, c'est juste se dire... Toujours se poser la question sur un projet, est-ce que je vais être utile au projet?
Nouvel album de Zola.
Un truc comme ça, tu vois, mais par exemple, un troisième album de Zola, même si c'est chez nous, j'irai pas, moi, artistiquement. Parce qu'on a bien bossé ensemble. Tu vois, on a fait des vrais trucs. Et je pense que autant pour lui, tu vois, que pour moi, c'est bien que, t'as vu, c'est pas là, c'est un troisième album, dans une densité courte, finalement, entre les sorties d'albums, tu vois. Il faut le temps de se régénérer, tu vois. Il faut le temps de, tu vois, et la wave, c'est une lecture difficile. Et puis c'est aussi, il faut se sentir utile. Je me sentirais pas utile sur un troisième album de Zola. Tu vois, parce que j'ai besoin de faire d'autres choses aussi. Et c'est le luxe, c'est le kiff que je peux m'octroyer aussi aujourd'hui, tu vois. Et puis ça me ferait kiffer de découvrir moi un album de Zola, tu sais, en tant que...
Que c'est un producteur.
Ouais, ou genre comme un mec de... Comme un vrai patron de label. Tu sais, un truc où j'arriverais devant, avec Senior, tu vois, son grand frère est producteur. C'est une licence. Et genre, j'écouterais l'album, tu vois, comme ça. Franchement, je pense que ça me ferait kiffer.
Nouveau challenge.
T'as quoi d'autre comme gros challenge qui te ferait kiffer?
Continuer à faire de la bonne musique. C'est un putain de challenge, tu vois. Toujours à essayer ce grand écart impossible de se dire de faire des hits avec du goût, tu vois, de la bonne musique. Il y en a qui font des vrais scores et qui font de la bonne musique. C'est cool. Ouais, je crois qu'on est bon.
Merci à toi.
Merci.
Merci à toi d'avoir écouté en entier ce nouvel épisode de La Vraie Interview présenté par Bouscapé. Abonne-toi au podcast La Vraie Interview sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Pour que le podcast remonte dans les classements, tu peux aussi nous laisser une bonne note. Une fois que c'est fait, n'hésite pas à aller découvrir les autres podcasts de Bouscapé.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.